Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Élections en Afrique du Sud, l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en 1994, arrive en tête des législatives selon les premiers résultats partiels publiés ce jeudi, après dépouillement de plus d'un tiers des quelques 23 000 bureaux de vote du pays. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Oui, l'ANC qui possède la majorité absolue dans l'Assemblée nationale sortante est crédité de 55,07% des suffrages après le dépouillement des bulletins dans un bon cas, 26% des bureaux de vote. L'Alliance démocratique DA, principal parti d'opposition, arrive en deuxième position du scrutin de mercredi avec 25,96% des voix, largement devant le Parti radical de gauche des combattants pour la liberté économique EFF avec 8,28%. Selon ces résultats partiels qui donnent un taux de participation de 64,72% en nette baisse par rapport aux législatives d'il y a 5 ans, 73,48%. Les grandes lignes du paysage politique sud-africain ne sont donc pas modifiées. Une fois élus, les députés choisiront le chef de l'État. Si la victoire de l'ANC se confirme, Cyril Ramaphosa, au pouvoir depuis février 2018, devrait prêter serment le 25 mai.
République centrafricaine, la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, se dit préoccupée par les violations commises dans l'ouest du pays par un des groupes armés signataires du récent accord de paix. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans un communiqué publié hier, la MINUSCA fait état d'une récurrence des violations du droit humanitaire commises par le Front démocratique du peuple centrafricain dans la préfecture de la Nana Mambéré. La mission rappelle aux leaders du FDPC que ces actes constituent des violations graves du droit international humanitaire et sont contraires à leur engagement dans le cadre de l'accord de paix dont ils sont signataires. Le mois dernier, des éléments de ce groupe armé ont attaqué un village de l'Ouest où ils ont enlevé 3 personnes, incendié 2 véhicules ainsi que 2 motos et maintiennent 2 des victimes toujours en captivité, a expliqué la MINUSCA. Début avril, une opération militaire avait été lancée par la MINUSCA contre ce groupe implanté localement mais sans influence nationale. L'ONU reprochait au groupe armé d'avoir érigé des barricades sur la seule route permettant d'approvisionner Bangui depuis le Cameroun. Le FDPC dénonçait ce qu'il considérait comme un non-respect de l'accord dans la formation du gouvernement.
En RDC voisine, l'augmentation du nombre de personnes touchées par l'épidémie d'Ebola inquiète. Les attaques répétées contre les centres de traitement et le récent assassinat de médecins camerounais ont causé un ralentissement des activités de riposte anti-Ebola. La maladie a déjà fait plus de 1000 morts depuis le mois d'août dernier dans le nord-est de la République démocratique du Congo où elle sévit dans la région de Beni, province du Nord Kivu et aussi dans la province voisine de l'Ituri. Eddy Sango a joint dans le Nord Kivu le directeur de l'Institut national des recherches biomédicales, le docteur Jean-Jacques Mouyembe.
Ça nous inquiète beaucoup, cet accroissement de nombre de cas. Cela est dû, entre autres, au fait qu'il y a beaucoup de périodes d'insécurité. Chaque fois qu'il y a une période d'insécurité, donc on arrête les activités de riposte. Les chaînes de transmission, alors, restent présentes et même ça augmente parce qu'on a arrêté donc les activités de riposte. Il y a d'autres raisons, mais je crois que ça, c'est la raison principale qui fait que le nombre de cas ne fait qu'augmenter au cours, n'est-ce pas, de cette épidémie.
Quelles sont les autres raisons alors?
Il y a une faiblesse dans la surveillance, mais le goulot d'étranglement, c'est surtout le fait que la communauté n'est pas totalement engagée, n'était pas appropriée cette lutte. C'est là vraiment le goulot d'étranglement principal.
On a connu plus de 10 épidémies déjà en RDC d'Ebola, et cette fois-ci, par rapport aux autres fois, on bénéficie du vaccin. Mais qu'est-ce qui fait que malgré les vaccins, ce nombre continue toujours à s'accroître?
C'est là aussi l'erreur. C'est que les gens croient que c'est le vaccin qui va arrêter les épidémie. Le vaccin n'est qu'un outil secondaire pour lutter contre Ebola. Nous l'avons toujours fait. À l'époque, donc, on vous dit que nous sommes à notre 10e épidémie. Le 8e épidémie antérieure, on n'avait pas les vaccins, mais on parvenait, n'est-ce pas, à vaincre vite les épidémies en utilisant simplement les mesures de santé de base. C'est ça qui est le plus important. Donc, lavage des mains, précaution pour les cérémonies funéraires, isolement des malades, c'est ça qui est le plus important. Donc, détecter le contact, suivre le contact, c'est ça qui est le plus important. Le vaccin s'ajoute, mais le vaccin ne va pas remplacer ces techniques, ces méthodes de base qui sont les méthodes, n'est-ce pas, simples de santé publique.
Mais justement, l'OMS demande que l'on puisse augmenter le nombre de vaccins.
Bon, le nombre de vaccins, c'est-à-dire il y a toujours le vaccin RVSV de Merck, Mais ce vaccin a cette indication. On respecte cette indication-là. C'est donc faire une vaccination en ceinture. Mais nous avons besoin d'un autre vaccin qui est un peu plus large. C'est ça qu'on va utiliser dans les jours à venir.
Vous êtes à la tête d'une institution qui a mis sur pied aussi un vaccin. Et ce vaccin-là est utilisé. Qu'en est-il de son efficacité?
Mon institution a contribué à la mise en place d'une molécule pour traiter les malades. Ce n'est pas un vaccin, mais c'est comme un médicament. Quand nous utilisons déjà sur le terrain, il y a beaucoup de malades qui sont guéris en recevant donc ces molécules. Et il y a encore d'autres molécules comme les IMAP, les Regeneron et tout ça, que nous utilisons sur place. Alors, c'est comme ça que vous voyez aussi que le taux de mortalité par rapport aux épidémies antérieures tourne autour de 60%, 62%. Alors que dans les épidémies antérieures, on atteignait facilement 70%, 80% de mortalité.
Le docteur Jean-Jacques Mouyembe, directeur de l'Institut national de recherche biomédicale au Nord Kivu en RDC.
VOA Afrique en direct de Washington.
Insécurité croissante dans le Sahel. Les Nations Unies ont suspendu jusqu'à nouvel ordre leurs activités dans la région de Tillabéri dans l'ouest du Niger après le vol mardi de deux véhicules d'humanitaire dans le camp de réfugiés de l'ONU de Tabarbarei. Le point avec Morgane Guiriec.
Par mesure de sécurité, toutes les missions dans la zone de Tillabéri et de Walam sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, selon une note de l'ONU au Niger. Mardi, six hommes armés à bord de moto ont fait irruption dans le camp de Tabarbarei et sont repartis avec deux véhicules sans faire de victimes. Le 2 mai, le même scénario s'est produit à Ouitabongou, dans le département de Walam, obligeant Médecins sans frontières à suspendre une partie de ses opérations. Les responsables humanitaires de l'ONU au Burkina, au Mali et au Niger s'inquiètent de la montée de l'insécurité dans le Sahel. En avril, plus de 150 incidents violents ont fait plus de 300 morts. 330 000 déplacés internes sont venus s'ajouter à quelques 100 000 réfugiés. Les organisations humanitaires ont lancé un appel pour obtenir 600 millions de dollars afin d'aider 3,7 millions de personnes, mais jusque-là n'ont reçu que 20% de cette somme.
Mouvement de contestation au Soudan. Les leaders de la contestation au Soudan ont accusé mercredi les généraux au pouvoir de chercher à retarder le transfert de l'autorité à un régime civil. Les contestataires menacent de lancer un mouvement national de désobéissance. Pour leur part, les États-Unis ont exhorté les chefs militaires soudanais à parvenir à un accord avec les manifestants. Le numéro 2 du département d'État américain, John Sullivan, qui s'est entretenu au téléphone avec le général Abdel Fattah al-Burhan, leader du conseil militaire de transition, lui a demandé d'aller rapidement vers un gouvernement intérimaire dirigé par des civils et de trouver un accord avec les meneurs de la contestation réunis au sein de l'ALC, l'Alliance pour la liberté et le changement. Et États-Unis toujours, Donald Trump Jr., fils aîné du président américain, est convoqué devant une commission du Sénat dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. La commission sénatoriale du renseignement, aux mains des républicains, veut l'entendre pour la seconde fois dans le cadre de cette vaste investigation qui s'est conclue en mars par l'absence de preuves de collusion entre Moscou et l'entourage de Donald Trump pendant la campagne de 2016. Plus de détails sur les tout derniers rebondissements politiques à Washington avec Anne Albertson.
Il s'agit de l'annonce surprise de la convocation du fils aîné du président Donald Trump par la commission du renseignement du Sénat, sous contrôle républicain, du premier vote dirigé, selon des lignes partisanes, contre un de ses ministres, celui de la justice, William Barr, accusé par la commission judiciaire de la Chambre basse d'entraver les pouvoirs d'investigation du Congrès, et du refus inédit de la Maison-Blanche de livrer certaines informations sensibles en usant de ce qu'on appelle le privilège de l'exécutif. Nous sommes désormais en pleine crise constitutionnelle, a tenu Jerry Nadler, le chef démocrate de la puissante commission judiciaire, après le vote contre M. Barr. La faute du ministre de la Justice, son refus de livrer à la commission la version complète du rapport d'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe. Du pur théâtre politique, a rétorqué le ministère de la Justice.
Et pour terminer, le président Donald Trump a affirmé hier que les négociateurs chinois vont venir à Washington pour nouer un accord commercial, tout en réitérant sa menace de nouveaux tarifs douaniers qui pourraient donner lieu à des représailles chinoises. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.